Je sens chez les enfants une mollesse, un manque de force, de volonté.
Si tu nous disais une tirade.
Maintenant, là ?
C'est ton père qui te le demande. Celle que tu disais à ta mère tout à l'heure.
Bah ouais, vas-y, lance-toi, puisque tu es artiste.
Viens, galopons ensemble, criait la voix.
T'es pas obligé d'écarquiller les yeux comme ça.
Continue.
Et oui, on reste en famille ce soir, donc dans le rendez-vous Nash signe Nash, premier album pour la fille Anna de la famille Chedid, une âme mélancolique, si l'on voulait paraphraser le deuxième titre de son disque, Émilie Chaudet.
Pas de cordes, mais un clavier pour endosser l'uniforme musical familial, Nash nous interprétera deux titres de son premier album en direct du studio 108, Cœur de Pierre et Ce qu'ils deviennent.
À ses côtés, Bruno Podalydès qui réalise Comme un avion et s'offre pour la première fois un premier rôle, celui d'un quinquagénaire obsédé par les avions, passionné par les kayaks et qui prend la rivière comme d'autres prennent la mer. Pour un voyage initiatique et lumineux, Émilie.
Retour sur le parcours d'un cinéaste et acteur qui, au fil de sa filmographie, illustre la définition qu'il donne de son cinéma, des jeux d'enfance qui se sont prolongés.
Sans oublier la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne, ce soir, Jean-Marc, à votre programme.
Une série réalisée par le frère et la sœur Wachowski qui s'appelle Sense8.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre avec le son du jour.
On veut lutter contre l'élitisme, on dénonce les replis communautaristes, l'obscurantisme, ce qui s'est passé au mois de janvier, et le meilleur endroit, c'est la démocratie culturelle, et là, la démocratie de l'apprentissage de la musique, de la danse et du théâtre. Et donc, on voit bien que là, il y a une rupture dans le discours pour des questions d'économie qui sont des économies de bout de chandelle, dont le signifiant, c'est la remise en cause de notre démocratie sociale qui repose sur la démocratie culturelle.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Oui, c'est le délégué syndical de la CGT Culture, Marc Slipper, qui a répondu à une interview pour France Culture. Vous l'entendez évoquer les conservatoires, car une journée d'action avait lieu aujourd'hui à Paris et dans toute la France pour lutter contre la directive nationale d'orientation prise par le ministère de la Culture. Cette directive prévoyait de supprimer pour les trois prochaines années les subventions des conservatoires à rayonnement départemental, les CRD, des conservatoires à rayonnement régional, les CRR, donc tous les conservatoires non adossés à des pôles supérieurs. Or, il existe seulement 9 pôles supérieurs en France, 38 CRR et 105 CRD. Ça signifie en fait que seuls 15 conservatoires sur 143 continueraient à recevoir des subventions. La ministre s'est depuis réengagée justement, c'est sa phrase, dans les conservatoires et a donc donné plus de subventions. Rien n'est encore décidé. Elle signale que ses services sont au travail. Les syndicats ont salué un premier succès, mais indiquent qu'ils resteront extrêmement vigilants sur la question.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Un peu plus d'un mois après les faits, la nomination par le CSA de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions fait l'objet d'une avalanche de plaintes. 3 plaintes en une semaine. C'est Didier Quillot, l'ancien patron de la Gardère Active, qui a déposé la première il y a une semaine. Hier, c'était au tour du syndicat CNC Média, rejoint aujourd'hui par la CFDT Média. 3 plaintes qui dénoncent le manque d'impartialité du CSA et l'opacité de la procédure de nomination.
Oui, il faut dire que avant même la désignation, puis au moment de cette désignation, la presse dénonçait déjà un manque de transparence. Mais le 16 mai dernier, une enquête de Mediapart menée par le journaliste Laurent Mauduit a mis le feu aux poudres. Écoutez-le.
C'est une cascade d'irrégularités. D'une part, il y a eu un changement des règles du jeu de vote par rapport au vote émis lors de la désignation de Mathieu Gallet. Il y a l'un des membres du CSA, en l'occurrence Lilita Brossolette, qui a manqué à ses obligations d'équité et d'impartialité parce que elle a organisé un rendez-vous pour Delphine Ernotte avant qu'elle soit désignée pour qu'elle rencontre un grand patron, vous savez, François Pinault, qui est supposé avoir une relation de confiance avec François Hollande. Il y a eu un incident de pied nickelé invraisemblable. L'ancien patron de Canal, qui est maintenant chez Orange, était dans l'équipe de l'un des candidats, Didier Quillot. Il a changé de camp en cours de route. Il s'est mis au service de Delphine Ernotte. Et quand on compare les deux projets, celui de Didier Quillot et celui de Delphine Ernotte, on découvre des ressemblances stupéfiantes. Voilà. Et puis, ça se fait dans des conditions très curieuses d'opacité totale.
Car Olivier Schramek, le président du CSA, a en effet changé la procédure entre la nomination de Mathieu Gallet et celle de Delphine Ernotte.
Oui, alors pour la nomination de Delphine Ernotte. Plus d'auditions publiques, les candidats pouvaient tout à fait candidater de manière cachée, anonyme jusqu'au dernier moment. Les projets des candidats n'étaient absolument pas publics, seul Didier Quillot a dévoilé le sien. Et la désignation de la shortlist, les derniers candidats, n'a pas été motivée. Beaucoup de candidats légitimes, comme Didier Quillot ou par ailleurs Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde, fort d'une longue expérience des médias, ont été recalés sans connaître les motifs de ce rejet. Et ce, alors que la loi prédisait que le candidat devait bien connaître les médias, ce qui n'est pas du tout le cas de Madame Ernotte. Alors, le premier qui a porté plainte donc dans cette avalanche de plaintes, ça a été justement Didier Quillot, membre de Lagardère Active, qui est représenté par Pierre-Olivier Sur, avocat, bâtonnier de Paris, et donc représentant Didier Quillot.
Pour vous prouver que notre plainte est sans doute fondée, vous dire que le CSA, depuis notre dépôt de plainte, a fait savoir par voie de communiqué que dorénavant les procédures seraient modifiées. Elles seraient plus transparentes et cela laisse penser qu'il y aura donc un avant et un après. C'est très exactement ce que souhaite Didier Quillot qui n'est pas dans un esprit revanchard puisque il s'est d'ores et déjà réorienté vers la constitution d'un groupe de presse multimédia. Pour lui, sa candidature, c'est du passé, mais pour lui qui est un citoyen et qui adore le service public de l'audiovisuel, il y avait une nécessité, un devoir de citoyen que de dire ce que j'ai vécu moi en tant que finalement témoin engagé, plus jamais ça.
Ce communiqué qui promet des procédures plus transparentes a été suivi d'un autre quelques jours plus tard.
Oui, alors le CSA, qui, je le précise, n'a pas souhaité répondre à nos questions, a publié un communiqué il y a quelques jours, signé par 8 de ses membres, qui, dans ce communiqué, donc, démentent avoir fait l'objet de quelconque pression, contrairement à ce que disait l'article de Laurent Meduit. Mais il faut rappeler, c'est quand même très important, que les membres du CSA sont tenus à un devoir de réserve, qu'ils ne peuvent s'exprimer que devant la justice, et c'est justement la raison pour laquelle cette plainte est indispensable, explique Thierry Vildary, il est délégué syndical de la CFDT Média, journaliste à la rédaction des sports de France Télévisions.
Il y a des membres du CSA qui sont totalement choqués par ce qui s'est passé, qui ont un fort ressentiment, et qui sont prêts à collaborer avec la justice. Pour l'instant, ils sont tenus à un devoir de réserve. Certains membres du CSA ont quand même dit que, malgré ce communiqué, ils donneraient leur version des faits si jamais un juge était amené à leur demander. Je pense que c'est quand même un petit scandale de la République. Je pense qu'on a marché un peu sur la démocratie. Nous, on n'a pas de candidat favori dans cette histoire. Mais par contre, on considère que c'est pas possible de laisser des gens manipuler comme ça. Au bout du compte, ce qui paraît quand même tout à fait paradoxal, c'est qu'on délègue la nomination du président de France Télévisions à une institution en disant « voilà, maintenant ça va être clair, transparent ». Et bien finalement, je crois qu'on a réussi à faire pire que sous Sarkozy.
Voilà, maintenant c'est au parquet de Paris de se saisir de l'affaire, d'engager peut-être une enquête préliminaire et de décider ou non d'ouvrir une enquête.
Et tout de suite, les brèves.
Et l'on ouvre avec l'écrivain Dany Laferrière qui est entré au musée Grévin de Montréal. L'écrivain haïtiano-québécois, c'est toujours difficile à dire, qui a récemment rejoint l'Académie française, a franchi donc un pas de plus vers l'immortalité. Il est représenté avec son double dossier réalisé par Klaus Welt, assis dans un canapé tenant en main son livre « L'énigme du retour » prix Médicis 2009.
Trois statuettes précolombiennes découvertes au Pérou.
C'est une découverte majeure, ces statuettes précolombiennes sont vieilles de 3800 ans. Elles ont été découvertes sur le site archéologique de Vichama, qui appartient à l'antique civilisation de Caral au nord du Pérou. Elles ont été trouvées à l'intérieur d'un panier de roseaux noués avec des fils de coton. Il s'agissait certainement de statuettes religieuses.
Et la dernière.
Et dernière, c'est une petite histoire légère pour finir sur une note d'amour. Une histoire d'éducation sentimentale ou plutôt d'éducation pornographique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de sexe dans cette dernière, qui a un peu tourné au vinaigre pour une enseignante. Ça se passe en République tchèque. Il y a une professeure de sciences physiques et sciences naturelles qui a montré à plusieurs reprises, trois fois, à ses élèves de 11 ans, des extraits du film 50 nuances de Grey, 50 Shades of Grey. Alors, On pourrait se dire que c'était pour les initier à leur vie sexuelle. Pas du tout. Elle-même s'est justifiée en disant « Je voulais qu'ils découvrent l'électricité qu'il peut exister dans leur corps. » Il semblerait en réalité que cette enseignante n'allait pas très très bien. L'établissement a donc décidé de la radier puisqu'il s'agissait en fait de la deuxième fois qu'elle faisait ce type de faute. Alors on n'a pas eu la précision sur quels étaient les autres types de faute. En tout cas, elle avait déjà montré des films, on n'a pas le détail. Voilà, moi j'aurais bien aimé qu'on montre ça quand j'avais 11 ans.
Ce film-là, il
je
est nul.
Je sais pas, je crois qu'il est nul, mais bon.
Il y a quand même d'autres films à
c'est
montrer,
rigolo.
Même sur ce thème-là, que ça. Parfait. Vous
c'est bénin, j'ai cru qu'elle allait montrer sa propre anatomie.
Bruno Podalides, qui lui va beaucoup plus loin tout de suite. À trois reprises, en plus, il y avait une sorte de suspense.
Ils ont 11 ans, c'est ça qui est pas drôle, parce que c'est un film interdit aux moins de 17 ans, quand même.
Moins de 17 ans, ce truc ?
En République tchèque.
Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, j'avais oublié. On se retrouve demain pour la suite de ce journal
avec
de culture.
Avec plaisir, et n'oubliez pas que vous pouvez le réécouter et le podcaster pendant 1000 jours sur le site de France Culture.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, on va ouvrir tout de suite en musique pour cette semaine 40 ans de chansons françaises avec vous, Nash. Vous signez votre premier album chez Polydor. Il porte votre nom de scène, Nash, qui est une contraction de votre prénom, Anna, et de votre nom, Shedid. On l'a suffisamment lu dans la presse. À ce propos, j'ai lu que ce serait difficile pour vous de porter votre nom sur scène et qu'avec Nash, ça vous permet d'être quelqu'un d'autre. C'est vraiment un truc de famille parce que Mathieu Shedid s'est inventé aussi un personnage M. Shedid, c'est lourd à porter sur scène. Il n'y a que votre père pour le porter.
Non, en fait, c'est même pas ça. C'est-à-dire que moi, je voulais m'appeler Nash parce que en fait, le visuel est très important aussi dans la musique. C'est le spectacle, la musique. Et Nash, je trouve ça très graphique. Je trouve ça beau. Je trouve que ça sonne bien. Et donc c'était plus pour ces raisons-là que mon nom de famille, parce que je voulais vraiment qu'il y ait du Shedid et j'assume totalement.
En plus, vous êtes en concert avec
voilà,
vos frères et votre père.
Il y a aucun problème. J'aurais pu m'appeler Anna Shedid si j'avais trouvé ça beau et si ça m'inspirait à quelque chose de graphique ou de visuel. C'était moins le cas que Nash.
Donc il n'est pas question de s'inventer un personnage sur scène. Je vous pose cette question parce que je sais que vous avez eu une formation de théâtre, cours Florent. Est-ce que Nash peut être aussi un personnage développé sur scène ?
Oui, c'est un personnage. C'est-à-dire que c'est super Anna, quoi. C'est-à-dire que je peux me permettre beaucoup plus de liberté, je peux aller plus loin, je peux oublier un peu, je peux rêver, je peux aller plus loin, donc je peux
Mais
créer.
Plus loin que quoi ?
Bah que la réalité, que c'est du spectacle, quoi. Donc, c'est créatif, mais en même temps, ça reste très sincère. L'émotion, c'est ce qu'il y a de plus important dans la musique. Hein, donc, c'est très sincère quand même.
Émilie.
On va vous laisser vous installer au piano tout de suite. Nash, il y a 12 titres dans ce premier album, des déclarations d'amour, y compris à la musique, comme dans Âme mélodique, des chansons sur la perte, sur le deuil, comme Ce qu'ils deviennent, et une chanson sur vous, intitulée Je suis moi. Alors, vous allez tout de suite nous interpréter au piano le premier titre de l'album, Cœur de pierre. On vous écoute.
Mon corps est froid, mon cœur a peur. Si loin déjà des jolies heures. Mon ami le plus grand s'en va, il s'enfuit comme le pierre dans la voie lactée, un autre amour se perd et je pense à toi, j'en perds la raison, j'écoute ta voix, rechante la chanson. Même la nuit me donne des coups. Sous les larmes, mon sourire se noie et la femme de cire se débat. J'entends se briser. Pierre. la Voie lactée, un autre amour se perd, et je pense à toi. J'en perds la raison, j'écoute ta voix. Ah, rechante la chanson.
De Pierre, Nash, extrait de votre premier album du même nom en direct du studio 108 sur France Culture. On vous retrouve tout à l'heure.
Peut-être une dernière question avant de vous retrouver tout à l'heure. Comment on construit la première chanson qui ouvre l'album ? Puisque c'est celle-là qui ouvre l'album. Pourquoi on choisit celle-là et qu'est-ce que ça donne comme indication de lecture pour un album ?
Je pense qu'elle est bien représentative de mon univers musical, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs qui se mélangent et il y a de la mélancolie. En même temps, il y a beaucoup de rythme dans l'arrangement du disque. Il y a de la lumière. Et c'est ça, c'est comme ma pochette, c'est-à-dire que c'est sombre, mais il y a toujours des couleurs, toujours de la lumière, et ça me définit bien.
Vous tâtez aussi de la musique, j'ai pu voir Bruno Podalydès dans votre film du ukulélé.
Après une si belle chanson, je ne dis rien, moi. Non.
Pour autant, la musique, c'est quelque chose que vous avez pratiqué assez jeune, je crois. Je lisais dans un article, vous, c'était la guitare. Et votre frère, Denis,
la flûte traversière. 2 mois et demi.
Ah oui, bah. 2 mois et demi de flûte traversière, d'accord, c'est pas... Oui. Et vous continuez pour autant, parce que le ukulélé, ça ne s'invente pas quand même dans le film.
Oui, je continue aussi la guitare. En fait, ce qui m'a aidé à continuer, c'est d'endormir mes enfants le soir par des petites berceuses, etc. Et je chantais parfois longtemps, et ils dormaient depuis longtemps aussi.
Commence.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Castor Junior avec vous, Bruno Podalydès, réalisateur, scénariste, acteur en tête d'affiche de votre 7e long métrage, Comme un avion, qui sort aujourd'hui en salle. Pour la première fois, vous y interprétez le premier rôle, celui de Michel, un infographiste doux, rêveur, 50 ans, un peu obsessionnel aussi, obsédé par les avions et l'aérospatial, et qui décide un jour...
L'aéropostale. Malheureux.
C'est là où vous voyez quel amateur je suis. Pourquoi l'aéropostale plus particulièrement, d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça permet de dire ?
Ça raconte non pas l'exploit en tant que tel, mais
des valeurs.
Des valeurs, et puis un voyage en solitaire. J'aimais beaucoup le récit des Saint-Exupéry, notamment d'être seul dans une cabine à 3 mètres au-dessus des vagues, dans la pénombre, et d'atteindre les petites étoiles que le continent, quand il s'illumine, etc. Enfin, j'ai beaucoup d'images, en fait.
Pour autant, donc, votre personnage décide un jour de s'offrir un kayak à cause de sa forme, proche de celle d'un avion mais sans les ailes. Il quitte alors sa femme, c'est Sandrine Kiberlin, pendant une semaine. Il prend la rivière à bord de son kayak avec plein de matos dedans et le manuel des Castors Junior. Ça a vraiment été un guide pour vous, ce manuel des Castors Junior ?
Un guide spirituel. Oui, bien sûr, parce que notamment grâce au manuel des Castors Junior, j'ai pu annoncer à mes parents des mauvaises notes. Il donnait des trucs pour...
Pour annoncer cela.
Ouais, et ça marche toujours. Hein. Je me souviens de, si vous avez eu 8 sur 20, vous annoncez un 2 sur 20. Et après, vous dites, mais non, je blaguais, c'était 8. Et soulagement, ça marchait bien, ça.
Un voyage donc de quelques kilomètres, puisque lors de la première escale, vous tombez, il tombe, sur une auberge qui héberge une galerie de personnages fantasques, une serveuse qui pleure quand il pleut, un couple de types qui passent leur temps à se dire « j'ai bien fait l'amour aujourd'hui », et l'autre répond « et moi aussi. Le tout pour un film lumineux, et ceci pour paraphraser ce que le personnage Michel dit de sa femme. Bande annonce.
Alors, essence, ok. Pression, ok. Checklist terminé.
Comme un avion sans air.
Ouais ! Mais quelle surprise à la con.
Michel, il y a tout le monde, il y a tous tes amis, il y a même Choupette et Félix.
Est-ce que ça va, Michel ?
Je vais partir.
Partir ? Quand ?
Où ? Pas loin, mais pour être dépaysé.
Avec tout ce matériel ?
Oui, j'accorde une grande importance au matos.
Mais t'es prêt, là, hein ?
J'ai super chaud, en fait.
Tu viens de loin avec ton canoë ?
Et tu vas où ? Le plus loin possible.
Kayakiste à la con.
Hein ? Quoi ? Tu m'as entendu, kayak connard ?
J'aime bien te laisser porter par le courant.
coup de courant. Il faut savoir le sentir, l'accompagner.
Il faut savoir se laisser porter.
Ah, un aventurier. Vous venez loin, monsieur ?
Mais de ton cul.
Bah, monsieur, faut arrêter le kayak.
Kayak connard. C'est Pierre Arditi hein, qui le dit.
Mais c'est terrible parce qu'il y a que deux insultes dans ce film qui est hyper gentil sans adversité. Et
il est pris pour la bande-annonce.
Dans la bande-annonce, ouais.
Vous n'êtes pas responsable de la bande-annonce. Jamais les réalisateurs ne sont responsables de la bande-annonce, c'est ça ?
Je me sens responsable dans le sens où elle représente un film, mais j'en suis pas l'auteur en tout cas, c'est sûr.
Première fois que vous tenez le premier rôle dans l'un de vos films, il y avait eu un court-métrage auparavant, vous étiez inhibé auparavant pour ne pas justement être le premier rôle de vos films et laisser souvent la place à votre frère, Denis Podalydès ?
J'avais pas le sentiment de lui laisser la place, j'ai une grande admiration pour lui, acteur. Non mais c'est vrai,
non, mais c'est
tout
bien
simple.
Sûr.
Hein, j'ai la chance que l'acteur que j'admire le plus soit mon frère, donc je vais pas m'en priver.
D'ailleurs, il est dans le film aussi, ouais.
Oui. Donc jusque-là, j'étais très heureux comme ça. Et puis là, pour cette histoire de kayak que je pratique,
intensément,
que j'aime, cette histoire de geste de pagayer comptait beaucoup pour moi. Du coup, je me suis dit, je vais prendre les commandes de l'appareil.
Émilie Chaudet.
Bruno Podalydès, votre film se passe à la campagne. C'est un film très lumineux au sens propre du terme. Et je sais qu'à ce titre, vous avez beaucoup parlé à vos acteurs, à vos collaborateurs de deux films de Jean Renoir, à savoir Déjeuner sur l'herbe et Partie de campagne. Comment ces sources d'inspiration ont fonctionné sur ce film ? Qu'est-ce que vous avez demandé à votre chef opérateur ?
Je lui ai demandé beaucoup de souplesse en fait, parce que quand on tourne dans une rivière, on alterne des fortes lumières et des zones d'ombre, et donc il fallait être très souple, comme dirait Nemo, mobile dans le mobile, pour capter ces variations auxquelles je tenais. Donc, ce qui était beau, c'est que son équipe est Claire.
Claire Maton, c'est ça.
Claire Maton,
la chef opératrice.
Parce que vraiment, je suis très content de son travail, qui était un travail, malgré une lumière naturelle, un travail d'orfèvre. Il tendait des draps un peu partout. J'en avais même sur moi, parfois, si c'était pas cadré. Son chef électro transformait n'importe qui en porte-drapeau blanc, en réflecteur, en fait. C'était beau à voir.
Un mot sur votre travail de réalisation. Dans un entretien, j'ai pu lire qu'Agnès Jaoui évoquait une certaine lenteur, presque une sorte de nonchalance dans votre travail, quelque chose qui l'a plutôt déstabilisé au départ, et surtout énormément de prises. Qu'est-ce que ça vous permet de prendre autant de prises ? Tout au contraire d'un Philippe Garrel, par exemple, qui lui prend la première.
Et puis lui, il tourne encore en 35, donc je tourne en numérique. Donc je profite des avantages du numérique, déjà, qui est de permettre, ça ne coûte pas plus cher de continuer à filmer. Alors c'est pas que c'est un robinet ouvert, la caméra, mais je me suis rendu compte, si on dit couper, il faut remaquiller les acteurs, refaire un clap, on reprend 10 minutes de retard, et l'acteur reprend un track, alors que si on enchaîne une prise, souvent, juste d'indiquer comme ça, reprendre ou moins redémarrant le dialogue, il y a une espèce d'abandon de nous tous acteurs qui fait que la vie revient simplement parce que le temps s'étire un peu. Mais j'ai pas le sentiment de faire beaucoup de prises, cela dit, c'est ça qui est drôle.
C'est quelque chose que vous aviez repéré chez d'autres réalisateurs que vous avez pu fréquenter en tant qu'acteur ou en tant que collaborateur ? Je pense à Alain René, par exemple.
Ah non, je crois pas. Je crois qu'Alain a gardé sa méthode propre au 35 mm jusqu'au bout. Non, mais là, l'intérêt de tourner en numérique, c'est justement d'être plus dans l'espèce d'angoisse de la pellicule et du magasin qu'il faut changer toutes les 10 minutes. Donc il faut en profiter. Mais c'est même pas ça, c'est que comme je jouais et que j'étais le réalisateur, je n'allais pas me voir au combo, au retour. Je préfère enchaîner assez vite quelques prises et je verrai ça au montage. Du coup, je préférais un flux comme ça, une espèce de longue prise qui en fait contenait 4 prises, plutôt que de faire des allers-retours entre la caméra. Il suffisait de regarder le regard d'Agnès, par exemple, pour voir si tout ça vivait ou pas.
Agnès Jaoui. Qui est réalisatrice par ailleurs.
Et qui aide justement de ce côté-là, ouais.
Ah oui ?
Enfin, je pense, oui, c'est inconscient, mais forcément, j'ai vu qu'elle avait une conscience plus large que son personnage, sur une prise. Elle était, comme moi, attentive à un mouvement de figurant, ou autre chose comme ça, ouais.
Émilie.
Oui, on faisait allusion à Alain René à l'instant. C'est lui qui vous a demandé de mettre en scène une version d'Orphée dans son dernier film. Vous n'avez encore rien vu. Qu'est-ce qu'il vous a appris sur votre métier de cinéaste ?
Bruno Podalydès.
Justement, parler du temps, il m'a appris à prendre son temps. que je prenais déjà un peu avant, mais maintenant j'assume plus. C'est-à-dire qu'il, on lui posait une question, il baissait le menton comme ça, et puis il pouvait même dire « je vous réponds demain ». Et ça, c'est précieux, parce qu'en fait, une fois qu'il a pris sa décision, ben, rien ne l'arrêtait. C'était un cargo qui rentre dans le port, quoi. Il y a une puissance terrible d'avancer, mais dans une lenteur propre à la réflexion. Donc ça, voilà, on a passé, je me souviens, une après-midi juste à chercher les noms des personnages qui figuraient dans l'émission que j'avais faite pour lui avant dans Cœur, le film Cœur, où j'avais dû réaliser une fausse émission de télévision. Et cette recherche juste des prénoms ou des noms, juste pour imaginer qu'est-ce qu'on pouvait, quels pouvaient être les malentendus de choisir tel ou tel nom. Voilà, cette prise de temps m'a marqué.
Comme à tous nos invités, Bruno Podolides, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Vous nous en avez apporté deux, dont on ne sait rien. D'abord le premier.
For my next experiment, ladies and gentlemen, I would appreciate the loan of any small personal object from your pocket. A key, a box of matches, a coin.
Key it is. Good, sir. Hold it up 10 feet over your head and watch out for the slightest hint of hanky-panky. And behold, before our very eyes, a transformation. We've changed your key.
Bruno Podalides m'a mimé un geste, donc je crois comprendre de quoi il s'agit, mais identification de ce son est la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
C'est le début de Vérité et mensonge d'Orson Welles, avec la voix d'Orson Welles en magicien au début du film. C'est un envoûtement, enfin, je pense, c'est la classe absolue, et j'avais commencé mon spectacle de magie au double fond avec les Duvivier par cette voix qui nous ouvre la plus belle magie.
La magie, vous la pratiquez depuis l'enfance ?
Oui.
Quelque chose que vous partagez avec votre frère, ou c'est vraiment votre truc à vous ?
Non, c'est plus mon truc. Ouais. Denis, c'était plus sa mallette de clown.
Et qu'est-ce que cette expérience particulière, parce que je sais qu'il y a 3 mois, vous êtes produit en public hein, d'ailleurs, pour de la magie. Qu'est-ce que cette expérience particulière de la scène, de la magie, apporte à votre travail d'acteur et même de réalisateur ? Qu'est-ce que ça suppose, Bruno Podalides ?
En tant qu'acteur, c'est vraiment bien parce qu'on apprend à dédoubler un peu ses mains, sa voix, sa pensée. Donc c'est un conflit très difficile en général. Et là, j'ai pu, pour la première fois, être magicien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de l'avancée dans ma vie que de se prétendre magicien pendant une heure.
Deuxième son, donc le son dont on ne sait rien.
Vamos allá de frente. De frente.
Qu'est-ce que c'est que ce son mystère ?
Alors c'est un petit dialogue entre un guide en Équateur et un bébé crocodile. Je devais filmer pour Air France une belle destination en Équateur. Et on ne trouvait pas de crocodile. Il est rentré avec sa pirogue, j'étais dedans, dans les hautes herbes. Et puis tout d'un coup, il a sorti de l'eau, ce bébé crocodile. On l'a regardé attendri, il nous brandissait comme ça. Il nous a pissé dessus avec une pisse virulente façon liquide d'alien, là, vous savez, qui perfore les cloisons. Et puis, on attendait donc que la mer arrive. Et tout d'un coup, comme dans un film de Spielberg, on a vu les hautes herbes battre comme ça et foncer vers nous. Là, j'ai vu que ce guide que je vénérais tout d'un coup a blêmi. Il a tiré, comme dans Liberté Oléron, le moteur pour qu'il redémarre. J'aime autant vous dire que là, on prie. Et puis, il est reparti en arrière et la mer n'a pas réussi à nous rattraper.
Très histoire. Est-ce que ces films pour Air France, ça a participé de quelque chose dans votre travail plus tard de réalisateur ? Qu'est-ce que ça vous a appris, Bruno Podalides ?
J'étais un peu à tous les postes, en fait. Je filmais, je produisais aussi, parce qu'on me donnait une enveloppe budgétaire, il fallait en faire un film. J'écrivais, puis je voyageais, et je filmais des avions, donc c'était un grand bonheur.
Nash, quand vous faisiez du théâtre, vous projetiez dans certains rôles, précisément, du côté du cinéma aussi ?
Oui, j'étais... Bizarrement, j'étais plus douée dans la comédie, mais j'aurais voulu, j'aurais bien aimé faire des rôles un peu tragiques.
Mais c'est toujours les gens qui sont doués dans la comédie qui veulent des rôles beaucoup plus tragiques.
Ah oui, je sais, il paraît. Mes amis comédiennes me disent ça, oui.
Et vous, Bruno Podalides, dans quelle typologie, on va dire, de burlesque vous vous situez, en fait ? Parce que dans la comédie, vous êtes plutôt doué, manifestement.
Ben, je vous remercie. Le progrès que j'ai fait, c'est là d'accepter que sur l'affiche, il y a écrit une nouvelle comédie.
Ouais.
Donc le. De
ça voulait dire qu'il y en avait eu d'autres avant.
Oui, déjà. C'est ça. Ouais. Mais le mot comédie. Avant, on se dit comédie. Bon, c'est pas forcément sérieux, tout ça. Enfin, on préfère. Moi, j'ai toujours préféré l'idée de film. Parce que comédie, ça veut dire vous allez rire. Donc, ça m'angoissait beaucoup qu'on puisse dire aux gens vous allez rire, comme on va dire. Je vais te raconter une histoire drôle, tu vas rire. C'est déjà mal
généralement,
barré.
Généralement, c'est mal barré. Mais là, et maintenant, vous pouvez l'assumer.
Bah, bizarrement, oui.
Pourquoi bizarrement?
Bah, parce que c'est bizarre de dire voilà, vous allez rire. Enfin, c'est peut-être ma pudeur sur ce film-là.
Juste une dernière question qui m'a intrigué quand j'ai lu la documentation à votre sujet. J'ai lu que vous aviez fait un temps de la radio et que vous présentiez des chanteurs avant les Jeux de 20h, mais les Jeux de 20h, c'était à la télévision.
Donc oui, vous faisiez de la radio. Que j'étais pas. Non, mais ils passaient. Ils allaient aux Jeux de 20h, mais moi, j'étais à Radio-Télé Yvelines. Et donc, je les avais, les chanteurs, le lendemain, le surlendemain, avec leurs petits 45 tours. Et je choisissais rien. Donc, c'était drôle de voir arriver un gars. Il mettait son 45 tours avec une voix de chèvre. Et on va faire une heure sur deux titres.
Donc, vous ne saviez rien au départ.
C'est un enregistrement disponible de ces émissions.
Jean-Marc Lennon qui veut un scoop pour son magazine.
Un rendez-vous. La chronique.
Jean-Marc, eh bien, c'est votre tour. La chronique du mercredi, du samedi, on travaille pas le
mercredi.
Samedi. Du mercredi, cinéma
avec
au pluriel.
Avec deux magiciens, eux aussi, le frère et la sœur Wachowski, qui reviennent avec une série qui s'appelle Sense8, et qui n'est pas une série télé, mais qui est, parce qu'elle n'est pas produite et diffusée par une chaîne de télé, mais elle est produite et diffusée par le site de streaming Netflix, qui a mis en ligne vendredi dernier les 12 épisodes, la première saison donc de Sense8, qui est une série absolument prodigieuse. C'est-à-dire que c'est vraiment énorme, et surtout, c'est la quintessence du système Wachowski. Alors les Wachowski, on sait que ça fait un petit moment en fait qu'ils tournent autour de la forme de la série télé. Par exemple, leur avant-dernier film dont vous vous souvenez peut-être, Laurent, qui s'appelait Cloud Atlas, déjà avait une structure narrative qui ressemblait à une série télé, puisqu'il y avait six intrigues enchevêtrées, six personnages principaux qui étaient répartis à six périodes historiques différentes, et ça constituait un film très très long de plus de 3 heures, donc vraiment feuilletonesque, mais malgré tout l'ambition extrêmement prolifique des Wachowski semblait presque freinée par le format du long métrage de cinéma. Alors là, tout à coup, en investissant le format de la série télé, ils peuvent donner libre cours à cette inspiration portée vers la profusion narrative absolue. Et là, carrément, il y a 8 personnages principaux, 8 intrigues enchevêtrées, et c'est comme s'ils déployaient sur l'espace ce qu'ils avaient enchevêtré dans le temps sur le précédent, puisqu'on est dans 8 points différents du globe terrestre. On suit à la fois. Alors, je vais peut-être pas tous me rappeler, mais il y a à la fois une boxeuse à Séoul, un flic à Chicago, une transsexuelle harcelée par sa famille à San Francisco, un perceur de coffres à Berlin, une star de cinéma à Mexico, il y en a encore 3 autres.
Un chauffeur de bus au Kenya.
Voilà.
Et les autres, je sais pas.
Bon. Et donc, c'est, chacun est absorbé par son intrigue qui est déjà très 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 touffue, avec plein de personnages secondaires autour d'eux, donc ça fait vraiment un lacis narratif extrêmement complexe. Et en même temps, ces personnages absorbés dans leurs problèmes, tout à coup, ils sont saisis par un phénomène étrange, ils ressentent des choses que ressentent les 7 autres personnages que pourtant ils ne connaissent pas, comme s'ils formaient une sorte de réseau sensoriel. Par exemple, il y en a un qui fait l'amour à Chicago, et tout à coup un autre qui est dans sa salle de gym à Berlin ressent un orgasme.
Qu'est-ce que j'aimerais vivre ça.
Un garçon, par exemple, se regarde dans le miroir à Londres, et ce qu'il voit, c'est dans le miroir, mais une fraction de seconde, c'est une jeune fille à Bombay. Donc il y a comme ça, comme si tout leur cerveau était branché sur le même Wi-Fi. Il y a comme ça une sorte de synesthésie entre leurs têtes. Alors cette figure, au début, évidemment, ils ont très très peur, ils se disent qu'ils hallucinent. Ce que ça ramasse en fait cette histoire, c'est 2 obsessions propres aux Wachowski. La première, c'est le trouble de la perception. C'est évidemment le sujet de Matrix. C'est-à-dire que tout à coup, la perception de la réalité, sur un mode quotidien, est altérée, connaît une sorte de bug. Mais ce bug n'est pas forcément une déficience, pas forcément un brouillage, mais peut-être, au contraire, l'accès à une réalité supérieure. La perception est un code comme un autre, il en existe plusieurs, et tout à coup s'ouvrent les portes de la perception et on accède à une autre dimension du réel. Ce qui est beau là, c'est que dans Matrix, pour arriver à cette espèce de dérèglement de la perception, ils utilisaient des effets spéciaux sidérants, extrêmement innovants. Alors que là, ils expriment la même chose, mais avec des figures extrêmement archaïques de mise en scène. C'est-à-dire que les plus beaux effets spéciaux du film, c'est des raccords sur des regards. C'est-à-dire que quelqu'un lève les yeux à Berlin, et tout d'un coup, ce qu'il voit, c'est quelqu'un à Bombay. Donc c'est vraiment le degré zéro de l'effet spécial, et ça produit c'est d'une expressivité archaïque, mais vraiment extrêmement forte et tout aussi sidérante que les effets spéciaux de Matrix.
Ça, c'était la première chose. J'ai pas perdu le fil. Il y en a une deuxième.
La deuxième, c'est cette obsession des Wachowski qui travaillent toute leur œuvre et pas seulement leur œuvre,
leur corps.
Leur cœur aussi, puisqu'on sait que Lana Wachowski a changé de sexe. C'est cette idée que l'identité, en fait, est moins une force qu'une limite, que l'identité est une clôture. C'est-à-dire que lorsqu'on est soi, on n'est surtout pas les autres, en fait. Et donc, ce qui se passe avec ces êtres comme ça montrés en réseau, c'est qu'ils sont à la fois hommes et femmes, blancs et noirs, qui mettent en partage leur savoir, leurs compétences. Ils sont des sujets ouverts, des sujets qui repoussent les limites de cette clôture terrible qui est le fait d'être soi et juste soi.
Je vous vois dubitatif pour Bruno Podalydès.
Non, je vous disais que c'était une métaphore de la mise en réseau. On n'a plus de sexe sur le réseau. On fait ce... Et puis on peut avoir un orgasme par téléphone. Enfin,
ah oui,
du téléphone
pour avoir ce genre de choses.
Le rendez-vous.
Je veux être belle, mais j'y arrive pas. Dans ma tête, c'est pas la joie. C'est la fête.
Plateau L, c'est elle avec Nash, chanteuse, compositrice, interprète, avec Ça y est, un premier album chez Polydor, après deux EP parus en 2008 et 2013, vous signez toutes les chansons, paroles et musique. À quel moment vous avez commencé à écrire des chansons? Parce qu'il y a eu plusieurs vies pour Nash. Une formation de jazz, une formation classique dans le lyrique, une formation de théâtre. À quel moment on se met à écrire?
Depuis très petite, en fait, ma grand-mère, quand j'avais 8 ans, m'a offert un cahier. Ma grand-mère qui était...
André Chédid, poète.
Ouais. Et voilà, et ça a été vraiment... Je me rappellerai toujours de cette journée où j'ai eu ce cahier et ce stylo à plumes. Et j'ai commencé à écrire des poèmes, en fait. Et voilà, j'ai écrit beaucoup de poèmes. Et je me suis rendu compte à 18 ans, donc 10 ans après, que ces poèmes-là, c'était des chansons, en fait, que je pouvais les chanter. Et donc j'ai pris mon piano, je suis un autodidacte, j'ai jamais vraiment pris de cours de piano, et j'ai fait mes chansons.
Vous avez eu une formation lyrique, hein, je viens de le dire. Quelle tessiture et quel répertoire?
Alors, mezzo. Ouais. En fait, je pouvais chanter mezzo et je pouvais chanter soprano dramatique. Donc, voilà. Et quel répertoire? Moi, j'aimais beaucoup Scarlatti, Mendelssohn et je suis une grande fan de Debussy aussi. Et voilà.
Et pourquoi avoir arrêté cette carrière-là?
J'ai arrêté parce que je chantais que j'allais, voilà, fallait que je choisisse, en fait. J'arrivais pas à faire les deux. Ma prof de chant lyrique était très, très, très sérieuse et elle voulait vraiment que je réussisse et elle voyait en moi je sais pas quoi, mais elle était complètement, j'étais son petit poulain. Et donc je me suis dit, j'ai envie de faire mes chansons, j'ai vraiment envie, donc je me suis accrochée à ça et j'ai arrêté le chant lyrique.
Vous auriez pu faire comme Ariel Dombal, je plaisante.
Tout à fait.
Votre son du jour, voici ce que vous avez choisi. Épargné d'identifier le son, je pense que tout le monde aura reconnu la Calas. Pour quelle raison avoir choisi cet extrait-là?
Parce que j'ai entendu ça, je devais avoir 6 ans, ma mère écoutait ça, et ça a été un choc, incroyable. Et pendant peut-être 3 ans, c'était assez drôle, quand je prenais une douche ou je faisais des trucs, je rejouais ça, je rechantais ça, et j'essayais de faire la chanteuse lyrique, et j'étais petite fille, et ça m'a donné envie de chanter, en fait, c'est ça.
Et vous, quelle est la musique que vous avez écoutée quand vous étiez plus jeune, qui vous a particulièrement marqué ? De quel répertoire ?
C'était Moustaki et Gainsbourg.
Ben, Moustaki qu'on retrouve encore dans les films.
Ouais. Mais surtout Gainsbourg, pour la sophistication, pour moi, et l'insistance des rythmes.
Émilie.
Chez vous, Nash, la chanson est incarnée par des hommes, votre père, Louis Chédid, votre beau-frère, d'ailleurs, Joseph et Mathieu Chédid. Vous êtes la chanteuse de la famille, et à ce sujet, Dominique a une question pour vous.
On pose des fois la question, la part féminine de la féminité de la musique. Qu'est-ce que je mets ? J'ai envie de poser la question inverse à une femme. Quelle est la part masculine dans son activité de chanteuse ? Elle la voit où ?
Dominica, qui était notre invitée hier.
Merci pour cette question. Et la part masculine, c'est les instruments. C'est-à-dire que je joue de la batterie, je joue de la basse, et j'ai un côté assez rock et assez masculin là-dedans. Cette approche-là qui est que... Je suis sur scène et j'ai plus d'identité, j'ai plus de sexe justement. Je suis une musicienne et j'ai envie de faire du rock, j'ai envie de taper de la batterie, j'ai envie de faire de la basse, j'ai envie que ça danse, j'ai envie que ça. Et donc ça a pas de sexe et ça peut être homme-fille.
En retour, une question pour Minuit, puisque ce seront nos invités de demain. Minuit, ce sont les enfants, les vrais enfants de Fred Chichin et de Catherine Ringer.
Une question qui serait. Moi c'est, comme vous, je joue avec ma famille et j'adore ça, et je trouve que c'est un sentiment assez particulier quand on joue en famille. Donc qu'en pensez-vous et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Très bien. La chanson, c'est vraiment, donc on l'aura compris, une histoire de famille chez vous. Est-ce qu'il y a un répertoire de chansons qui vous est commun à tous ? Des admirations, des références que vous partagez en famille ?
Il y a Gainsbourg aussi, il y a les Beatles, Jimi Hendrix...
Ça, toute la famille aime ça.
Ouais.
Et vous, des goûts particuliers que les autres regardent de travers ?
Non, mais c'est vrai que le classique, je pense celle qui écoute peut-être un peu plus du classique et puis du jazz. J'écoute beaucoup de jazz et les autres sont un peu plus rock. Et mon père adore Brassens, adore la chanson française aussi.
Émilie.
Quand vous étiez enfant, vous suiviez votre père dans les studios d'enregistrement. Votre frère Mathieu vous a également amené vers la scène et vers la musique, puisqu'il vous a demandé de collaborer à ses titres alors que vous n'aviez que 8 ans. Vous êtes ensuite monté sur scène avec lui pour interpréter des duos. Vous faisiez du piano aussi, vous faisiez partie des chœurs. Est-ce qu'il y a des souvenirs de concerts qui vous ont marqué ?
Oui, quand j'avais 22 ans, Mathieu m'a proposé de partir en tournée avec lui. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai fait des scènes incroyables. J'ai fait 12 Olympia, les vieilles charrues devant 60 000 personnes. Alors que moi, je sortais du nid. Quand on est Mathieu Chédid et qu'on a fait 15 ans de carrière avant, c'est normal. Enfin, c'est fou déjà, mais c'est plus normal d'être là. Mais moi, j'arrivais, il fallait que ça assure. Et je me souviens très très bien de cette journée où on a fait les vieilles charrues devant 60 000 personnes. Et avant de monter sur scène, j'ai regardé derrière le rideau, je me suis dit mais comment je vais faire, ça va être dingue, et c'était fou. Et puis de vivre ça avec ses frères, il y avait Joseph aussi sur scène, Mathieu, et de voir son frère Mathieu. Et ce qui est dingue, c'est que quand je monte sur scène avec ma famille, j'ai pas peur. Je me sens protégée. Je me dis il peut rien m'arriver, ça va rouler.
En parlant de scène, vous êtes monté sur scène pour jouer le magicien ou le prestidigitateur. Est-ce que ça vous a particulièrement intéressé, le rapport sur la scène? Au-delà même du jeu, du prestidigitateur, d'être face à un public.
Oui, la porosité, ce qui m'a frappé, c'est, je crois que c'est vrai pour tout acteur de théâtre, la porosité avec le public, on sent le moindre frémissement, le moindre décroisement de jambes vous fait douter. C'était très perméable à la réception des spectateurs.
Le théâtre, ça ne vous a jamais tenté ?
En tant qu'acteur, non, en tout cas. Enfin, j'ai essayé avec mon frère, on a failli jouer ensemble. Et puis j'ai, tiré la sonnette d'alarme 15 jours avant de jouer. Donc j'ai plutôt un mauvais souvenir.
Quelle pièce ?
Le mental de l'équipe, où je devais faire l'entraîneur. Mon frère me demandait de hurler sur les autres joueurs et j'y arrivais pas.
Émilie.
Tout à l'heure, Nash, vous évoquiez votre grand-mère qui vous a amené vers l'écriture en vous offrant ce petit cahier rouge dont vous parliez. Elle a aussi écrit la chanson « Je dis M » pour votre frère. Est-ce qu'il y a un texte d'elle que vous auriez envie de mettre en musique pour un futur album ?
Oui, j'aimerais d'ailleurs, on verra si je le fais, mais j'adorerais faire un disque avec des poèmes de ma grand-mère, chanter des poèmes de ma grand-mère et donc composer sur ces poèmes.
Vous aviez déjà composé ou ce serait vraiment un projet ou vous avez déjà tenté sur ce texte ?
Non, j'ai pas encore tenté vraiment, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais réaliser dans ma vie.
Nash, eh bien, on va se quitter en musique. Je vous laisse regagner le piano pour un dernier titre. C'est Ce qu'ils deviennent en direct du studio 108 sur France Culture. Nash, c'est à vous.
Je ne rêve plus, ne rêve pas, ce vide en moi. J'ai perdu quelque chose, je n'entends plus, je n'entends pas cette petite voix qui me disait on aura tout le temps. Mes instants d'oubli, mes espérances, mes belles folies sont-elles à quelqu'un d'autre et dans la nuit sous leur silence, je m'évanouis et je me dis on aura tout le temps. Où s'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent? Où vont les vœux? Est-ce qu'ils reviennent? Où s'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent? Qu'ils deviennent. Est-ce qu'ils se rappellent de nos sourires, de nos querelles et de toutes ces choses faites qu'ils reviennent, me tendent la main et qu'ils m'entraînent en me chuchotant on aura tout le temps. Où s'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent? Où vont les vœux? Est-ce qu'ils reviennent? Où s'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent? Où vont les vœux? Ce qu'ils deviennent? Je ne rêve plus, ne rêve pas, ce vide en moi, j'ai perdu quelque chose.
C'était Ce qu'ils deviennent, Nash, extrait de votre album en direct du studio 108 de la Maison de la Radio.
La dernière question sera pour vous, Bruno Podalydès. Quel est votre truc de magicien? Le truc de magicien, Bruno Podalydès, celui que vous préférez?
Le truc?
Ouais, votre truc à vous. Enfin, pas le truc, pas le, disons le numéro de magicien que vous préférez. On va finir par le savoir.
Non, mais oui, non, un secret, ça reste un secret.
Ah non, mais sans
le, l'effet, alors.
L'effet, voilà, c'est ça, oui.
L'effet, c'est les gobelets, la circulation de petites boules sous trois gobelets.
Du bonneteau, quoi.
Oui, ça s'est inspiré du bonneteau, mais c'est un peu plus sophistiqué que ça.
Un peu plus élaboré.
Oui, oui, voilà.
Vous donc, Émilie, je vous ai coupé, je crois. La question que vous vouliez poser?
Oui, Anash, vous aviez parlé donc de Maria Callas comme étant un choc quand vous aviez 6 ans. Est-ce qu'il y a des modèles actuels de musiciennes, de chanteuses que vous aimeriez suivre? Que vous suivez peut-être déjà?
Moi, alors, j'aime beaucoup Björk. Parce que j'adore la liberté. Voilà, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et, enfin, l'amour et la liberté, bien sûr, mais la liberté, c'est très beau, et j'adore Björk parce que, voilà, il n'y a pas de limite dans ses créations. Et voilà, elle s'écoute, elle est dans son instinct, et parfois, je comprends pas tout, mais en tout cas, j'aime cette démarche-là. Donc, voilà, je la citerai.
Jusque dans les délires vestimentaires?
Ouais.
Très bien.
Ouais.
Notamment grâce au manuel des casseurs juniors, j'ai pu annoncer à mes parents, je vous réponds demain.
Je trouve que ça sonne bien.
Merci à nos invités. Nash, l'album est sorti sous le label Polydor. Je signale que vous serez en concert samedi à Montréal, dans le cadre du festival Francofolie, à Rome le 19, à Lyon le 23, dans le cadre des Nuits de Fourvière, et toutes les autres dates seront sur le site de l'émission. Bruno Podalydès, comme un avion, sans les ailes, est sorti en salle aujourd'hui. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain.
Lumière crue. Lumière sans flash, étrange sensation, flash.
Demain, ce sera une émission autour de minuit. Minuit, c'est ce que l'on vient d'entendre, avec Fred Vargas et Patrick Mosconi. Il a des annonces, Elsa.
Eh bien, c'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Aïssa Touenda et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfès, chronique Jean-Marc Lalanne, à la prise de son Jacques Azubert et Élise Le, et à la réalisation Thomas Beau. pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h53, vous êtes sur France Culture. C'est bien.